Je remercie aussi à mon tour toutes les personnes qui ont, bon, déjà l'Institut de culture italienne de Lyon qui nous a invités. On est très heureux d'être ici ce soir pour partager avec vous, c'est une passion qu'on partage effectivement, plus qu'une véritable conférence. Ça ne sera pas une conférence académique ce qu'on va vous proposer, mais on va surtout partager une passion, notre passion pour Alda Merini. Donc je vais commencer par une intervention pour présenter au public français, francophone, le corpus d'Alda Merini, un peu le personnage, sa poétique, et puis Patricia Dao se focalisera surtout sur sa traduction, la traduction du livre qu'on présente, qu'on a le plaisir de présenter ce soir et qui s'intitule Délire amoureux, Delirio amoroso. C'est une édition bilingue de ce texte d'Alda Merini qui a été publié en italien en 1989. Donc j'ai donné un titre à cette petite intervention que je vais vous proposer, de la parole du corps, la poésie d'Alda Merini. Je vais commencer par dire qu'il est toujours difficile de parler du corpus littéraire et poétique d'un écrivain lorsque son corps est encore trop présent, trop envahissant, puisque le corps risque de conditionner tout type d'interprétation, toute réflexion critique qui a le but de donner à l'œuvre un sens unique ou du moins partiellement définitif. C'est peut-être vrai, Pasolini nous le disait dans les années 60, que la mort de l'auteur revêt la même fonction que le montage dans l'élaboration d'un film. À savoir, la disparition du corps du poète permettrait effectivement, c'est ça qu'il disait, de donner un sens absolu et unique au corpus que l'auteur nous laisse. Pourtant, je trouve que dans le cas d'Alda Merini, la mort n'a pas eu ce type d'impact sur l'étude et, je dirais, entre guillemets, la fréquentation de son corpus littéraire. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai appris sur le net le 1er novembre 2009, jour anniversaire entre autres de la mort d'Ezra Pound et même de Pier Paolo Pasolini, la nuit entre le 1er et le 2 novembre, j'ai appris sur le net l'annonce du départ d'Alda Merini. Et comme je l'ai écrit dans l'introduction au texte « Délire amoureux » que nous présentons ce soir, en lisant le communiqué de presse qui a été diffusé sur le net, j'ai immédiatement pensé au court mais très intense discours que Moravia a prononcé le jour des funérailles de Pasolini. Et en particulier, j'ai pensé immédiatement à un passage que je vais vous lire. Il dit « Nous avons perdu surtout un poète. Et de poètes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On n'en compte que 3 ou 4 en un siècle. Lorsque ce siècle sera terminé, nous considérerons Pasolini comme l'un des rares poètes du Novecento. Le poète devrait être sacré. » Oui, le 1er novembre 2009, nous n'avons perdu uniquement une femme, donc je reviens à Alda Merini, qui a consacré sa vie à la poésie, mais surtout une femme qui a su, de par son corps et son corpus, transformer profondément le rôle du poète au sein d'une société, notre société contemporaine, qui s'est progressivement, je dirais, éloignée de la poésie, de son langage synthétique et ambigu, de sa manière de représenter, je dirais même de transposer la réalité, de sa façon d'aborder des valeurs universelles telles que la vie, la mort, l'amour, la douleur, l'existence, dans un monde qui est de plus en plus dépourvu d'un centre, comme le nôtre, hein, notre société contemporaine, dépourvu d'une identité à racines uniques, autour desquelles l'individu, nous tous, on a appris à se construire et à se définir. Donc Alda Merini, à travers son corps physiquement encombrant, son attitude naturellement gauche, sa manière naïve de s'adresser à ses interlocuteurs, ses vers qui semblent souvent jaillir par le jeu du hasard, a su contrevenir à tous les clichés sur le poète, que la critique surtout a contribué à alimenter, nous présentant à travers les époques l'image du poète officiel, l'image du poète maudit, l'image du poète engagé, ou du poète réaliste, ou néo-réaliste, ou du poète dissident, et je pourrais continuer encore des heures. Grâce à son écriture, entre autres son écriture poétique, parce que Alda Merini a écrit beaucoup de prose aussi, et d'ailleurs c'est le cas du livre de ce soir, grâce à son écriture, à travers laquelle elle s'est toujours exposée au monde, et faisant de son activité littéraire, je dirais, un instrument pour réceptionner, s'approprier et recréer la réalité à la fois de manière individuelle et collective, Alda Merini a tout naturellement ramené la poésie aux hommes. Quand je parle de poésie, je ne parle pas uniquement d'une technique, la poésie, le poétique. On ne pourra jamais oublier, par exemple, ses participations aux émissions télévisées, suivies en Italie par le public le plus varié, ou au talk show de première soirée sur Mediaset ou la RAI. Lorsque ses poèmes étaient lus par des acteurs, par des chanteurs-compositeurs, par des soubrettes chères au grand public. C'est pour ça que je dis elle a transformé le rôle du poète aussi. Elle était toujours là, prête à s'exprimer dans les situations les plus différentes, prête à lire ses poèmes, à parler de poésie, à rapprocher spontanément, je dirais naturellement, un public qui n'avait peut-être jamais lu un seul poème de sa vie de l'écriture poétique. Les paroles prononcées par Alda Merini laissaient toujours transparaître un véritable sentiment d'amour. Ça, c'est encore une thématique centrale, je trouve, dans toute sa poétique. Un sentiment d'amour qu'elle ressentait envers les femmes et les hommes de son époque, et qu'elle savait toujours transmettre à travers le culte pour ce que je nommerais humanisme contemporain. Elle n'a jamais cessé, effectivement, de refonder et de défendre ce culte de l'homme et pour l'homme avec toute son énergie, mais aussi avec toutes ses faiblesses, son humilité, mais également sa fermeté, comme seuls les grands poètes savent et arrivent à faire. L'écriture de Merini semble se fonder donc sur une sorte de parole-image qui lui permet de poursuivre sa recherche d'amour à la fois personnel et universel, et également d'exprimer son sens d'appartenance à un monde devenu de plus en plus insondable. Et on le verra, je vais vous proposer la lecture de quelques vers tout à l'heure. Donc, fuyant toute idée de centre, le processus de création chez Alda Merini devient en même temps, ce qui fait sa grandeur, je trouve, devient en même temps carrefour et moyen de transmission d'une sagesse qui se déplace de périphérie en périphérie et qui arrive à instaurer un véritable dialogue entre les différentes passions humaines, renvoyant chacune à une vérité possible. Il s'agit d'une parole, on aura l'occasion d'y revenir, qui s'exprime aussi grâce à la caducité de l'image. La passion changeante et mobile pour la musicalité, la musique aussi était très chère à Alda Merini, elle jouait du piano, elle adorait jouer du piano. La passion changeante et mobile, je disais, pour la musicalité qui se cachant derrière chaque endécasyllabe que Merini n'hésite pas de forcer, de mettre sous tension, même de fragmenter. Mais avant de poursuivre notre réflexion sur la poétique d'Alda Merini, je souhaiterais aussi donner quelques informations d'ordre biographique aussi, parce que j'imagine peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas bien l'auteur, et donc c'est bien de contextualiser un tout petit peu. Donc Merini naît à Milan le premier jour du printemps, le 21 mars de 1931. Elle publie son premier recueil, La Presenza di Orfeo, La Présence d'Orphée, en 1953. Les critiques et les poètes les plus reconnus de l'époque saluent ce recueil très favorablement. Je vais vous citer juste quelques auteurs. Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Giacinto Spagnoletti, Angelo Romano, entre autres. En 1955, elle publie deux autres recueils, Paura di Dio et Nozze Romane, dans lesquels l'auteur pose les bases de sa réflexion poétique autour de thématiques telles que l'érotisme et le mysticisme, le sacré, le sens du sacré, le sens de la mort, sans jamais laisser de côté la tendance constante à exprimer une sensualité qui est souvent à l'origine d'un sentiment de crainte, d'angoisse, parfois même d'inquiétude profonde. Je vais vous lire un seul texte de cette première production d'Alda Merini pour vous donner une idée. Vous préférez que je le lise en italien, dans le texte original, ou en traduction française? En italien? Pas simple ici. Dies ire. Tu insegui le mie forme. Segui tu la giustezza del mio corpo e non mai la bellezza di cui vado superba. Sono animale all'infelice coppia, prona su un letto misero d'assalti. Sono la carezzevole rovina dai fecondi sussulti alle tue mani. Sono il vuoto cresciuto sino all'altezza esatta del piacere, ma con mille tramonti alle mie spalle. Quante volte, amor mio, tu mi disdegni. Il titolo in latino, le titre est en latin, Dies Irae, hein, le jour de la colère. Et c'est un poème il y a une dédicace à ce poème, c'est à mio marito, hein, à mon mari. Et on reviendra aussi sur le personnage du mari d'Alda Merini. Elle publie ensuite, elle enchaîne avec la publication d'autres recueils poétiques. En 1961, elle publie Tu sei Pietro. Dans ce recueil, Merini revient lyriquement sur la réélaboration antérieure d'un amour malheureux. L'écrivaine puise du répertoire de la tragédie grecque qu'elle mélange, je dirais, à une mémoire culturelle de tradition chrétienne, à travers l'emploi de métaphores bibliques associées souvent à des images relayées à la culture païenne de l'Antiquité classique. Ça, c'est encore un autre aspect que je trouve fondamental d'Alda Merini, un côté très original dans la poétique d'Alda Merini. Il en sort une poésie qui arrive donc à fusionner, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de périphérie en périphérie, il n'y a plus un centre, hein, il n'y a plus de centre. Il en sort une poésie qui arrive à fusionner les éléments les plus différents. Les impulsions religieuses rencontrent l'érotisme, la culture chrétienne se superpose au-delà de toute dialectique à la culture païenne ancienne. Un autre petit exemple de ce que je viens de vous annoncer. Donc je vais lire un poème tiré du recueil « Tu sei Pietro ». Se avessi io l'evità di una fanciulla, invece di codesto, torturato, pesantissimo cuore, e conoscessi la purezza dell'acqua come fossi entro raccolta in miti sacrifici, spoglierei questa insipida memoria per immergermi in te, fatto mio uomo. Io ti debbo i racconti più fruttuosi della mia terra che non dà mai spiga, e ti debbo parole come l'ape deve miele al suo fiore, perché t'amo, caro, da sempre, prima dell'inferno, prima del paradiso, prima ancora che io fossi buttata nell'argilla del mio pavido corpo. Amore mio, quanto pesante adducerti il mio carro, che io guido nel giorno dell'arsura alle tue mille bocche di ristoro. Entre 61, donc la date de parution du recueil « Tous ces pietres » dont je viens de vous lire un poème, entre 1961 et 1978, la voix de Merini, la voix poétique, et pas seulement poétique, de Merini est brisée. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique près de Milan, à la demande d'un tiers, notamment de son mari, qui prend pour des symptômes de folie un moment de dépression de sa femme. Tout au long de ces années d'enfermement, le poète vit la douloureuse expérience de l'isolement. Et il s'agit d'une expérience qui permettra à Merini d'exprimer sa véritable descente aux enfers. C'est elle-même qui définit métaphoriquement ce lieu, une descente aux enfers. L'espace clos de l'hôpital psychiatrique deviendra un élément constant sur lequel Merini se focalisera dans sa production poétique des années 80. Cette expérience de l'internement donc est centrale en même temps pour le développement de la poétique de Merini. Cette expérience marque à la fois un renouvellement et une évolution du parcours littéraire et existentiel d'Alda. Dans le recueil intitulé « Terra Santa » qui est publié à la sortie de l'asile psychiatrique en 1984, grâce auquel elle emporte en 1993 le prestigieux prix Librex Montale. Dans ce recueil, Terra Santa, la Terre Sainte, hein, l'espace de l'hôpital psychiatrique s'impose comme un point d'observation privilégié, capable d'exprimer en même temps l'enfer naturel et la naturelle lumière de l'être humain. À travers cette force mystérieuse et sacrée des épiphanies, du délire, du chant, de la prière, des dévoilements, d'apparitions soudaines, Merini transpose poétiquement l'histoire d'une foule de malades d'amour, les internés, sur laquelle elle greffe ses sentiments individuels, sa psychologie et tout un répertoire d'images extrêmement raffinées, capables d'exprimer l'ensemble des obsessions qui n'ont pas cessé de traverser son esprit pendant ces années de silence. Quels sont ses sentiments, ses réflexions? Surtout ses sentiments par rapport à sa famille. Le manque d'amour, l'absence au mariage de l'une de ses filles, elle aura quatre filles, Alda Merini, la remise en question de son rôle de femme et de mère. Je vais vous lire trois poèmes que j'ai pris de ce recueil, parce que c'est... À mon sens, le recueil central c'est de la production poétique d'Alda Merini. Donc, de la Terra Santa. Il manicomio è una grande cassa di risonanza e il delirio diventa eco. L'anonimità misura. Il manicomio è il monte Sinai, maledetto, su cui tu ricevi le tavole di una legge agli uomini sconosciuta. Un altro testo. Al cancello si aggrumano le vittime, volti nudi e perfetti, chiusi nell'ignoranza. Paradossali mani avvinghiate ad un ferro e fuori il treno che passa, assolato, leggero. Uno schianto di luce propria sopra il mio margine offeso. poème est un clin d'œil évident à Baudelaire, que Mérigne aimait beaucoup. Io ero un uccello dal bianco ventre gentile. Qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra, io canto ora per te le mie canzoni d'amore. Dans ces vers se détache, je pense que c'est assez évident, un sentiment profond d'amour que les souffrances quotidiennes de cette expérience de l'hôpital psychiatrique, que les souffrances quotidiennes et l'attente d'une rédemption ont rendu débordant. Il s'agit d'un sentiment d'amour débordant, intense, comme le feu. Maria Corti, qui s'est occupée beaucoup de la poésie d'Alda Merini et de l'écriture d'Alda Merini, son corpus, affirme qu'elle n'a jamais été un poète de la nuit et du désespoir, mais un poète de la lumière et du feu. Une lumière et un feu qui ont constamment été nourris par la puissance et l'innocence de l'amour qui arrache l'homme de son enfer existentiel. Dans ce recueil, Mérigne exprime l'atmosphère incohérente et vertigineuse d'un hôpital psychiatrique et d'une folie qui corrobore sa voix poétique au lieu de l'affaiblir. S'appuyant donc sur la notion, je l'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, de parole-image, la force et l'originalité de la poésie d'Alda Merini des années 80 réside dans la capacité de plonger la parole dans une mémoire matérique. Je vous demande de me faire passer ce mot qui n'existe pas, matérique, de matière, hein, qui nous rappelle, entre autres, la poésie orphique de Dino Campana, poète de la première partie du Novecento italien. Il s'agit d'une poésie qui, réhabilitant les notions de parole et de corps, de vision et de mémoire, donne une forme, forge, hein, donne une forme et une dictée inédite à la folie. La folie devient ainsi pour Mérigne un dispositif poétique capable de pénétrer les raisons d'une vie et d'un rêve qui sont en mesure d'humaniser l'expérience inhumaine de l'internement de l'hôpital psychiatrique. Aux thérapies à base d'électrochocs, de Prozac, d'anafranil, à l'expérience terrible de la stérilisation à laquelle Mérigne sera soumise à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, à l'humiliation du corps dépourvu de toute valeur, de toute dignité humaine, Alda Merini oppose à tout cela, par le biais de son écriture, une quête incessante d'amour. L'affirmation d'une vie désespérément et autrement normale, une parole-corps qui, dans la fidélité métrique à la tradition italienne, dénonce la perte de tout respect vis-à-vis de la dignité humaine. Et enfin, un nouveau sentiment du sacré. Un sentiment du sacré qu'elle essaye de refonder à travers un syncrétisme, une superposition, un syncrétisme inédit entre les cultures chrétiennes et païennes de dérivation classique. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce texte qui porte le titre du recueil, La Terra Santa. La Terra Santa. Ho conosciuto Gerico, ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza d'acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia, confuso dentro la folla, un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco di asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava, ma andavamo verso la messe, la messe di nostro Signore, il Cristo Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno. Da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. L'expérience de l'asile, et j'arrive presque à la fin de cette communication, l'expérience de l'asile est également au cœur de trois ouvrages en prose qui constituent une sorte de trilogie. Hein. L'Altra Verità, Diario di una diversa, publié en 1986, Delirio amoroso, publié en 1989, et La pazza della porta accanto, publié en 1995. Il s'agit de trois textes qui, se situant entre l'autobiographie et la fiction, arrivent à affranchir la notion de folie de toute définition conventionnelle, de toute définition d'ordre médical. Biographie et fiction s'entremêlent pour exprimer la déshumanisation d'un espace censé soigner une maladie mentale qui se transforme dans l'œuvre de Merini en lumière, en feu, en un dispositif capable de produire de la lumière qui est en mesure de rapprocher la folie des valeurs réelles et des valeurs du quotidien. Folie alors comme demande d'amour, amour intellectuel, amour physique, amour passionnel. Comme attitude de résistance, comme attitude de révolte à la tendance centripète d'une société, d'une culture, d'un langage qui ont tendance aujourd'hui à gommer tout type de différence. Folie encore comme besoin de l'autre, comme besoin de s'approcher de la réalité autrement, de la vivre peut-être différemment, comme parcours encore qui mène à une autre vérité. Il le dit clairement, l'altra verità, diario di una diversa, qui mène à une autre vérité, dans la tentative d'éduquer et de s'éduquer à la liberté individuelle, au-delà, bien sûr, de toute standardisation imposée dans notre société contemporaine par la crainte d'être libre. Folie, enfin, comme délire amoureux, pour reprendre le titre du bouquin qu'on présente ce soir. Comme véritable maladie d'amour, qui pousse à une recherche inachevée et incessante dans l'ombre de soi, dans l'ombre de l'autre, passant par la douleur inévitable de l'homme qui se retrouve à côtoyer et à connaître je dirais, une transcendance vide, mais qui pourtant ne cesse de s'élancer vers le sublime. C'est un peu ça que Mérine nous dit, hein? C'est l'illusion et la désillusion en même temps qui nourrit. L'illusion nourrit la désillusion et vice-versa. Quand je parle d'illusion et désillusion, je l'entends dans le sens étymologique du terme. Illusion, c'est faire le jeu, être dans le jeu. Désillusion, c'est s'éloigner du jeu. Hein, in ludo, deludo, hein, de ludus. C'est ainsi qu'Alda Merini n'hésite pas à traduire la douleur, sa douleur, en un dispositif de connaissance, dans la mesure où la folie permet de transformer l'isolement et la ségrégation en une forme de spiritualité, de mystique capable de voir la réalité autrement. Dans un passage de Delirio Amoroso, Merini écrit, et je cite, Mais savez-vous ce qu'est la folie? Pour moi, ce fut une grande, inconfessable langueur amoureuse. Une langueur intensément douloureuse et spasmodique, comme les contractions de l'accouchement. Fin de la citation. Folie et lucidité, me semble-t-il, vont de pair. Savoir se déplacer. Savoir regarder d'autres points de vue implique aussi le fait de ne pas avoir peur de se perdre pour se retrouver là où personne ne nous attend, là où on ne croirait jamais arriver. Ainsi, corps et corpus, pour revenir à mon début, se fondent et se confondent dans l'écriture de Merini, qui accordera de plus en plus à l'oralité une place importante, surtout à partir de la fin des années 80. Dans les années 90, après la saison donc des textes en prose, dans lesquels l'écrivaine réélabore donc l'expérience de l'asile, le parcours poétique de Merini change une fois de plus de direction. La force métaphorique qu'on a entendue dans les vers, dans les poèmes que je vous ai lus, laisse la place à une parole plus directe, plus improvisée, orale. Dans Ballate non pagate, publié en 1995, à la réflexion sur l'inutilité de la poésie dans une société vouée à la consommation, s'ajoute d'une part l'obsession de la mort, de l'autre un certain nombre de thématiques liées au quotidien, par exemple de son quartier milanais des Navigli, ainsi que des vers que Merini consacre à la disparition de personnes qui lui étaient très chères. Je vous en cite quelques-uns, puisque c'était aussi des personnages qui ont fait partie de la littérature italienne. Giorgio Manganelli, je ne peux pas ne pas le citer. Michele Pierri, Titano, c'est pas un personnage de la littérature. Titano, c'est un clochard avec qui Merini avait vécu quelque temps, avec qui elle avait partagé son appartement. Roberto Volponi, fils de l'écrivain Paolo Volponi, disparu prématurément à cause d'un accident. Dans ses derniers recueils, Merini produit une poésie donc proche de l'oralité, une poésie presque improvisée. Effectivement, elle avait pris l'habitude dans les années 90 de dicter ses vers à quelqu'un d'autre. Elle n'écrivait plus directement ses vers, elle les dictait par téléphone. Et quelqu'un d'autre les mettait sur papier, comme si la poésie venait d'un lieu sans écriture. C'est une poésie qui n'a plus besoin d'écriture. Dans les années 90. La vie est représentée dans ses derniers recueils comme une pièce théâtrale sans fin. Et sur ce plateau de scène, Merini n'est que la seule actrice qui joue le rôle en même temps de la victime et du bourreau de soi-même. La vie vécue et la vie rêvée ne font que se côtoyer tout au long du parcours biographique et artistique de l'écrivaine. Dans ce chant contre chant éternel et fragile, la poésie de Merini donc trace un parcours qui traverse un paysage antérieur et une folie, entre guillemets, représentant à la fois le centre et la périphérie de tout individu, ainsi que la seule possibilité de révolution humaine face à un espace-temps de plus en plus déshumanisé et de plus en plus manichéen. C'est quelque chose qu'on connaît tous, je pense, dans notre société contemporaine, cette tendance. C'est ainsi, et je vais terminer après par la lecture d'un dernier poème, c'est ainsi que la poésie, sans forcément le vouloir, s'affiche et agit comme un lieu à la fois d'existence et de résistance, et de re-existence. De naissance et de renaissance, dans une époque où le tout pareil semble être la seule religion de notre temps, dirait Pasolini, la seule manière pour exister et la seule manière de se reconnaître. Je vais terminer par la lecture juste d'un poème de sa dernière production pour vous montrer aussi la différence poétique. Ce poème fait partie du recueil Poésie et Père Charles. Io sono folle, folle, folle di amore per te. Io gemo di tenerezza perché sono folle, folle, perché ti ho perduto. Stamane il mattino era sì caldo che a me dettava questa confusione, ma io ero malata di tormento, ero malata di tua perdizione. Je termine par deux aphorismes, puisque Merini a écrit à la fin de son dans les années 80, 90 et dans les années 2000, a écrit beaucoup d'aphorismes. Je vais terminer parce que j'ai pas, je ne vous ai pas parlé d'un côté aussi qui est très important, mais peut-être Patricia aura l'occasion d'y revenir, de l'ironie d'Alda Merini, ce sorte de détachement aussi, de jeu. Hein. Elle aime jouer beaucoup aussi avec les mots. Et dans les aphorismes, on le retrouve très bien. Le premier. Quando brindo alla follia, brindo a me stessa. Io amo perché il mio corpo è sempre in evoluzione. Et le dernier, je vais le retrouver. Oui, voilà. Et là, je termine vraiment. Il poeta che vede tutto viene accusato di libertà di pensiero. Je vous remercie pour l'attention.